Allez, on passe tout de suite au marché. Intéressant. Le CAC en hausse de près de 6%, le S&P 10%, le Nasdaq 11,5%, Eurostock 10%, le Nikkei 13,7%, le Shanghai 3,9%. Contrairement à ce qu'a dit Christian Bito quand même cette semaine, la volatilité, dont je m'étonnais mercredi qu'elle était extrêmement basse, on avait atteint un point bas. La volatilité, je vous explique, c'est l'indice de peur, hein, et on le mesure par la volatilité sur les actions du S&P 500. Ça s'appelle le VIX, c'est un indicateur. Il est traité, on peut l'acheter, on peut le vendre à découvert. Eh bien, cet indicateur a rebondi de 15% par rapport à des niveaux qui sont très bas. Donc, on a quand même une petite ambiance d'interrogation, Christian. Je ne suis pas en train de dire que...
Oui, Marc, il y a eu un coup de chaud cette semaine.
Est-ce que c'est un épiphénomène ou c'est le début d'une correction?
Coup de chauffe cette semaine, et vous l'avez cité dans la première partie, c'est à cause d'une tension sur les taux d'intérêt à long terme. On en reparlera tout à l'heure. Il y a eu quelques mauvaises informations sur l'inflation. Mais je ne pense pas que ça soit remis en cause dans le schéma global. Okay. Donc toujours positif. C'est pour ça que vous m'avez invité en fin de semaine. Ça devra aller mieux dans les jours qui viennent.
Je vous ai invité parce que
j'avais envie de vous revoir. Ça masque tout de même. Il y a eu quelques autres bonnes nouvelles qui ne sont pas du côté américain, pour une fois, qui sont du côté de la Chine. Ouais. Le FMI a revu ses perspectives de croissance, comme les chiffres aussi chinois. Et finalement, le moteur chinois qu'on avait oublié depuis un an et demi, deux ans, avec un marché catastrophique.
A raison, on l'avait oublié.
Immobilier en crise fondamentale. La Chine se redresse un peu. Le FMI revoit ses perspectives de croissance à plus 5%. Et ça veut dire. Et le FMI, généralement, est assez sévère dans ses prévisions de croissance. C'est toujours en deçà. Qu'en début d'année, au mois d'avril, a revu ses perspectives de croissance pour les États-Unis. Pas de récession et une croissance surprenante. Plus 2,7%. Ouais. Et maintenant, la Chine, qu'elle ne prévoyait qu'à peine 4,6%, maintenant plus 5%. Donc de toute façon, on peut dire c'est plié, quoi que fasse la France avant ou après les élections européennes, quel que soit son déficit, la croissance mondiale se joue entre les deux gros acteurs, Chine et États-Unis, qui sont en moteur.
Et un peu l'Inde.
Alors l'Inde, génial, plus 6,8 dans les prévisions du FMI, pour reprendre et citer la source des chiffres. Oui, mais l'Inde, c'est à peine 3,5-4% du PIB mondial.
À force de dire que c'est à peine la contribution.
On en reparle dans 5 ans. Pour le moment, c'est encore tout petit. Là, moi, je parle du gros camembert, la Chine. Et la Chine a retrouvé son niveau d'exportation. C'est-à-dire que nous continuons à acheter. Il y en a pour un excédent commercial. Chine, reste du monde, de 880 milliards de dollars. Donc on a repris cette boucle où en fait on finance la désinflation mondiale en achetant des trucs pas chers à la Chine et ça redémarre.
C'est systématiquement une bonne nouvelle.
Allez-y, je rappellerai juste que la Chine a aussi battu son record d'exécution cette année.
Merci.
Christophe.
Bonne transition.
Vous avez vu que j'ai changé de
raison quand même. C'est pour ça, parce que sinon vous seriez sorti du plateau.
Complètement, je serais parti rapidement.
Vous savez plus ce qu'il voulait dire.
Mais si.
Non, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle.
Oui, exactement, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une économie chinoise qui a deux vitesses, qui exporte très massivement parce qu'elle n'a pas suffisamment de consommation en interne.
Elle exporte sa surcapacité.
Exactement. Et ça vous fait vous exporter de la production qui est déflationniste au niveau mondial. Elle pourrait l'exporter aux États-Unis, elle ne le fait pas. Rappelons-le, le 14 mai, l'administration Biden a mis en place de nouvelles mesures protectionnistes. Donc elle va finalement inonder, et là, la locomotive chinoise va inonder le marché européen avec des produits à bas coût. Je ne suis pas sûr et certain. Alors peut-être qu'en termes agrégés, en croissance macro, évidemment c'est positif, mais ça crée des frictions commerciales qui vont être certainement aussi négative à un certain stade. Donc
la relance chinoise est commerciale et industrielle, on voit sur la ville.
Donc c'est pas finalement si positif que cela d'avoir une Chine qui redémarre uniquement du fait des exportations.
Que nous disent les entreprises américaines
Et
les résultats.
On est sorti de la période des résultats. Donc les résultats étaient très très bons. Très bons. Mais c'est pas ça qui intéresse le marché, comme vous le savez. C'est ce que disent, ce qu'on prévoit pour les deux prochains trimestres notamment. Et je pense qu'il y avait une espèce de décalage, c'est-à-dire que le consensus des analystes était un peu gourmand, un peu ambitieux sur la période à venir, et donc il y a un réajustement. Et c'est pour ça qu'on a des baisses qui peuvent être sensibles sur des titres qui avaient bien monté. Et donc il y a ce retour de volatilité couplé évidemment avec le sujet. On voit bien que dès qu'il y a une tension sur le 10 ans, les marchés
sont un peu plus chahutés.
Mais il y a ce réajustement et effectivement les managements sont plutôt et légitimement prudents.
Ah bon ?
Parce que tout va bien.
Tout va bien,
mais il faut arrêter de... On est sorti de la période Covid, on est encore dans cette normalisation. Il faut arrêter de penser qu'on va avoir des croissances telles qu'on a pu les avoir pendant 2-3 ans. C'est normal.
De 2,6, c'est pas mal.
Non, je parle de des croissances sur les BPA, enfin les résultats, les bénéfices par action. Et comme je le disais, il y a quand même aussi beaucoup d'investissements. Alors, il n'y a pas de dette, effectivement. Elles sont très peu endettées, donc ça, c'est très
bien.
Voir des trésoreries pléthoriques absolument incroyables. Mais il y a un gros effort d'investissement. Et on sait pourquoi, parce qu'il y a des moteurs derrière, industriels. On le sait. Donc, oui, il y a...
Vous êtes positif sur les marchés américains ?
Oui.
Ouais, toujours.
Toujours, mais moi toujours parce que en fait il y a à faire et il y a forcément cette semaine nous a donné des opportunités ou nous donne des opportunités.
Il n'y a pas de bulle de l'IA.
Il y a des journées,
y a pas de
momentum où il y a des secteurs qui sont massacrés sans discernement. Faut regarder ce qui peut être intéressant. C'est comme ça qu'on peut revenir sur des sujets.
Il n'y a pas de bulle de l'intelligence artificielle.
Alors il y a peut-être quelques dossiers qui sont trop chers, bien sûr, Marc. Vous pensez à Nvidia ?
Non, je pense à rien. Moi je pense pas.
Si. Oui, bien sûr, il y a toujours des dossiers qui sont trop chers et il y a des dossiers qui sont peu chers et des dossiers qui sont voilà, mais nous on gère sur le prix à l'instant T. Nous on gère sur le prix, la valorisation future, parce que le prix, il est légitimé par la croissance future. C'est pas
Christian, vous êtes toujours optimiste donc.
Oui, parce que
très optimiste ou pas?
On va avoir besoin du moteur taux d'intérêt tout de même. Il faut que cette baisse de taux se réalise dans les prochains mois, parce que c'est un paramètre qu'on intègre à des bénéfices qui sont bons, mais effectivement, ils peuvent pas continuer à monter vers le ciel comme ça. Donc, il y a plusieurs moteurs pour qu'on gagne de l'argent avec des actions. C'est les bénéfices des entreprises, ils sont bons, mais ça a déjà bien monté depuis le début de l'année. Vous avez cité les performances des grands indices. Ouais. On a besoin du moteur taux d'intérêt. Et là, c'est vrai que cette semaine, il y a eu quelques petits dérapages.
Qui ne vous inquiète pas, parce que vous nous dites, non, il y a beaucoup d'argent.
Espérons qu'il soit conjoncturel et non structurel. Ouais. Ce qui est conjoncturel, c'est que le prix d'un conteneur, je parlais de la Chine, je veux acheter des bidules en Chine, je vais venir un conteneur, c'était redescendu à 2 000 $ pour avoir un conteneur. Mais avec les problèmes géopolitiques, ça, c'est toujours difficile à prévoir. Le passage par la mer de Chine devient délicat, il y a des détours. Le prix d'un conteneur a plus que doublé, a été multiplié par 3. On est à 7 000 $ le conteneur. C'est-à-dire le prix du transport vide.
On a bien compris.
Donc tout ceci, ça va influer sur le coût des matières importées. Le blé, plus 30% à cause de problèmes climatiques en Russie. Aïe. Le cacao, on en a déjà parlé ici,
le cuivre,
plus de 100%.
Enfin bon, c'est vrai que toutes les matières premières.
Et il manquerait plus que le pétrole. Et ça, c'est facile à regarder pour nous tous. C'est le cours du baril de pétrole et ça dépend du géopolitique.
Bah là, pour l'instant, justement, par rapport à ça, on a vu les dernières crises, il n'y a pas eu vraiment d'impact sur le baril. On a vu une
stabilité. Anne-Sophie, l'inflation, elle va continuer à baisser ou pas?
Oui. Alors en Europe, oui. Hein, et d'ailleurs, c'est quand même mieux de le dire, quelques mois. Et plus vite qu'anticipé. Hein, donc ça, quand même, il faut le dire, dès l'année prochaine.
Mais pas forcément pour la bonne raison.
Pas forcément pour la même raison.
Parce qu'on n'a pas assez de croissance.
Tout à fait. Bon, après, c'était de l'inflation énergétique. Donc, c'est aussi normal, vu que cette bulle est un peu derrière nous, qu'elle baisse plus rapidement qu'aux États-Unis. Et puis, c'est surtout que ça nous permet l'année prochaine de revenir à cette croissance. Alors, malheureusement, on n'est pas à 2,6 comme les États-Unis, mais on sera quand même à 1,5. Bah, là, en effet, on voit qu'elle reste quand même plus élevée, notamment, et j'étais assez surprise en regardant le détail, du prix du logement. Alors, c'est vrai que moi, je pensais qu'il y avait plutôt une baisse, plutôt un peu de la bulle depuis le Covid, puisqu'il y a eu des migrations extra-grandes villes, etc. Mais on voit que le prix du logement est encore le premier facteur à la
Donc votre anticipation,
de
l'invitation. C'est que ça baissera ou pas?
Ça baissera, mais moins vite que, en tout cas, anticipé par rapport à ce qu'on a vu en Europe sur les prix de l'énergie. Donc ça va rester encore haut, au moins l'année prochaine et jusqu'en 2026.